Chapitre 12. Avant les confidences de sa belle-sœur, Geneviève n'avait jamais pensé qu'elle pouvait se marier. Au moins qu'elle pouvait se marier si jeune, car sa vocation n'était pas de mourir vieille fille, et même elle avait, au sujet du mariage, de son mariage, des idées qu'elle n'avait jamais dites à personne, de ces idées que l'on caresse lorsqu'on laisse son imagination s'envoler dans la rêverie, mais sans les préciser jamais et sans leur donner une date pour la réalisation. Pourquoi pas? Un jour, peut-être. Et sur ce jour éloigné, avec sa constante préoccupation de l'avenir, elle bâtissait son roman, qui, pour la fin, était celui d'une jeune fille, mais qui, pour le commencement et le milieu, n'était encore que celui d'une enfant. Les confidences de Clara avaient instantanément changé tout cela. Elle n'était donc plus une petite fille, une gamine, comme disaient son père et ses frères. On pouvait donc l'aimer. On pouvait donc vouloir la prendre pour femme. Si le marquis avait eu cette idée de mariage, d'autres pouvaient la voir comme lui, car enfin, ce n'était pas l'âge, ce n'était pas la fortune qui la lui avait inspirée, c'était elle, elle seule. Si le marquis avait eu des yeux pour la voir, d'autres pouvaient en avoir aussi. Si elle n'était plus une gamine pour le marquis, elle ne devait pas davantage en être une pour les autres. Les autres, pour elle, se réduisaient à un autre, un seul, son ami, son camarade, celui qu'elle pouvait nommer tout haut maintenant et sans rougir, celui qui avait mené tout son roman depuis qu'elle l'avait commencé, qui en avait été, qui en était le héros, Faré. Elle n'était plus une petite fille pour le marquis d'Arlanzon. En était-elle toujours une pour Faré? C'était la question qui lui était venue à l'esprit au moment même où Clara lui avait parlé du marquis, et c'était elle qui maintenant la pressait le jour, quand elle avait la liberté d'être seule, de réfléchir ou de rêver. Et cette question, tout naturellement, en entraînait une autre qui n'était que la conséquence de la première. Ne l'aimait-il que comme une amie, une camarade, une sœur? Ou bien l'aimait-il? Jamais elle n'avait osé se le demander franchement, mais maintenant, lorsqu'en bâtissant son roman, elle en était arrivée à ce point délicat, elle avait eu une manière de le tourner, une façon jésuitique de petite fille qui l'avait laissée à peu près tranquille dans son honnêteté et son innocence. Quand Ernest m'aimera, c'est-à-dire quand je serai d'âge à être aimée. Et elle avait pu alors continuer le développement de son roman sans remords. Il ne s'agissait pas du présent. Tout se passait au futur. Et dans l'avenir, il lui serait bien permis d'aimer Ernest, comme il serait bien permis à Ernest de l'aimer. Si elle pensait à Ernest continuellement, si elle avait plaisir à être avec lui, si elle inventait des prétextes pour aller rue Girardon plus souvent qu'il n'était convenu, si elle en inventait d'autres pour qu'il vînt lui-même presque tous les jours place d'Ancourt, c'était parce qu'Ernest était son camarade. Il n'y avait pas besoin d'autres explications, cela était tout naturel et parfaitement légitime. Ce serait plus tard que ses visites seraient graves, quand elle serait en âge d'être aimée. Mais justement, voilà que cet âge était arrivé, et puisque le marquis d'Arlanzon voulait la prendre pour femme, elle pouvait sans scrupule se demander si Ernest l'aimait. C'était pour elle le grand mystère que l'amour, le sujet constant de ses recherches, de sa curiosité éveillée sur certains points et absolument aveugle sur beaucoup d'autres. Qui lui dirait ce que c'était que l'amour? La première fois que cette question s'était imposée à sa curiosité impatiente, elle avait en cachette demandé une réponse à son dictionnaire qui lui avait dit que l'amour était un sentiment d'affection d'un sexe pour l'autre, ce qui l'avait jeté dans le trouble et la perplexité. Elle avait de l'affection pour Sébastien et Frédéric, elle en avait pour Luttant, qui était d'un autre sexe qu'elle. Elle en avait aussi pour Ernest, et ses affections ne se ressemblaient en rien. Alors elle avait cherché le mot « amant », et elle avait trouvé qu'un amant est celui qui, ayant de l'amour pour une femme, a fait connaître ses sentiments et est aimé. Ernest n'était donc pas son amant, puisqu'il n'avait pas fait connaître ses sentiments. Et ce qu'il y avait d'incompréhensible, c'est qu'elle était l'amante d'Ernest, puisqu'une amante, c'était son dictionnaire qui le disait, et celle qui est attachée à un homme par des sentiments tendres et passionnés. Ne trouvant là rien de satisfaisant pour son esprit et sa raison, elle avait tout de suite sauté à Marie. Marie, celui qui est joint à une femme par le mariage. Et comme cela ne lui apprenait rien, elle était revenue à maîtresse. Mais là, elle avait tout à fait perdu la tête. Maîtresse, fille ou femme, recherchée en mariage. Ainsi, elle était la maîtresse du marquis d'Arlanzon et en même temps, elle était l'amante d'Ernest. Si les dictionnaires étaient bêtes, ses lectures ne la renseignaient pas mieux. Le Don Quichotte à l'usage de la jeunesse qu'on lui avait donné ne lui avait rien du tout appris sur l'amour. Don Quichotte était l'amant de Dulcinée de Toboso, eh bien, après. Olivier Twist, rien non plus. Robinson, encore moins. Dans David Copperfield, il y avait une petite Émilie qui aurait pu lui en dire long, mais elle s'exprimait avec tant de réserve et l'auteur parlait d'elle si discrètement que cette lecture vous mettait dans l'esprit quelques points d'interrogation de plus. Elle lisait, il est vrai, les journaux dans lesquels on parlait d'elle, la Gazette musicale, le Ménestrel et aussi parfois les journaux quotidiens. Mais c'était toujours ceux du lundi ou du mardi dans lesquels la critique musicale remplace le roman. Quant au journal de Faré, qu'elle lisait tous les jours, le roman ne racontait jamais que des histoires de mères à qui on a volé leur enfant, ou bien de membres coupés, perdus dans les rues de Paris, ici un doigt, là un pied, ailleurs un nez, avec lesquels on tâchait de reconstruire un cadavre complet, ce qui donnait lieu à des histoires effroyables. Tout cela ne lui apprenait pas ce que c'était que l'amour. Elle n'avait personne qu'elle pût interroger, ou plutôt qu'elle osât interroger, car elle s'imaginait que si elle avait questionné Sophie, celle-ci aurait su lui répondre. Mais comment poser des questions à cette grande gaillarde qui la traitait en gamine, avec des airs de supériorité qui se rattrapent ? Il fallait qu'elle le cherchât seule, en elle-même et en lui. Mais il est si difficile de voir dans les autres, et si difficile de lire en soi. Elle était en cela d'une maladresse qui lui faisait croire bien souvent qu'elle était stupide. Tout autre, à sa place, saurait sûrement à quoi s'en tenir, tandis qu'elle, elle ne savait rien, elle ne voyait rien, elle était incapable de se rien expliquer, croyant le contraire le lendemain de ce qu'elle s'était dit la veille. Les jours où il ne la quittait pas du regard, où il la suivait partout dans le jardin, où il trouvait toujours moyen d'être assis près d'elle, où chaque fois qu'il parlait, il s'adressait à elle, où il la prenait à part pour lui dire des choses qui l'exaltaient de joie, et qui, cependant, quand elle se les rappelait, étaient les plus simples du monde, les jours où il arrivait tout heureux pour lui apporter un article sur elle, où il écoutait jouer avec une admiration qui ne ressemblait en rien à celle de son public ordinaire, ces jours-là, elle se disait, elle se répétait « Il m'aime !» Et c'était le mot qui était sur ses lèvres quand elle s'endormait. Et les preuves ne lui manquaient pas pour affirmer cet amour. Est-ce que d'autres que lui avaient jamais eu des yeux si doux en la regardant, une voix si tendre en lui parlant ? C'était cela l'amour. Au contraire, les jours où il semblait vouloir s'enfermer dans une réserve à laquelle elle ne trouvait pas de cause, où il détournait les yeux lorsqu'elle le regardait, où il évitait les tête-à-tête, appelant quelqu'un ou s'en allant lorsqu'ils allaient rester seuls, ces jours-là, elle se disait « Il ne m'aime pas !» Et le mot qu'elle se répétait était, en dormant, « Il ne peut pas m'aimer !» Si cruel qu'il fût, ce mot, il ne la désespérait pas cependant, car elle en corrigeait l'amertume en reprenant son roman. « Quand il m'aimera, quand je serai d'âge à être aimée !» Mais, puisque cet âge était arrivé, pourquoi ne parlait-il pas maintenant ? Était-elle encore une gamine pour lui, ou bien la trouvait-il laide ? C'était là un doute qui la jetait dans des inquiétudes et des recherches dont elle avait honte. Non seulement elle restait devant sa glace à s'étudier, mais encore elle se comparait aux femmes et aux jeunes filles qui avaient une réputation de beauté. Elle interrogeait Faré pour lui demander quel type de beauté il préférait, car bien qu'elle connût son goût depuis longtemps, il pouvait changer, aimer les nez aquilins aujourd'hui et demain les nez droits. Et quand il lui avait répondu, quelquefois en l'air, sans trop penser à ses paroles, elle essayait de réaliser ce qu'il lui avait dit. Ou bien, sans l'avoir interrogé et d'elle-même, elle changeait sa coiffure, mais ayant toujours soin d'en choisir une qui lui donna l'air femme, croyait-elle. Ah, si elle avait pu paraître 30 ans,